Voilà, bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et donc, comme nous l'avons annoncé dimanche dernier, nous poursuivons sur ce thème du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, sa personne et son œuvre. Alors, la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, on a pu déjà vérifier dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit non seulement est Dieu, mais qu'il est une personne à la fois distincte du Père et distincte du Fils. On a vu donc la semaine dernière qu'il a une intelligence, une volonté, il exprime des sentiments, il peut parler, on peut lui mentir, on peut lui résister, on peut l'outrager et on peut blasphémer contre lui. Toutes les caractéristiques donc d'une personne. Alors c'est important de mettre ce point en premier parce que dans beaucoup de sectes aujourd'hui, la personnalité du Saint-Esprit est bafouée. Beaucoup de sectes considèrent que le Saint-Esprit n'est qu'une force ou qu'une puissance, qui est la force de Dieu, qui est impersonnelle. Or nous avons vu dans la parole qu'au contraire, l'Esprit est une personne. Et j'aimerais voir avec vous aujourd'hui que le Saint-Esprit agit. Il agit, donc, l'action du Saint-Esprit. Alors, pour développer ce sujet qui est vaste, on va parler ce matin spécifiquement de l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. L'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est plutôt différente de celle du Nouveau, et on va le voir. C'est pourquoi il nous faut comprendre comment l'Esprit agissait dans l'Ancien Testament et agit aujourd'hui avec le Nouveau Testament, avec Jésus. Parce que nous verrons par la suite que dans le Nouveau Testament, l'Esprit agit au niveau de la régénération, il agit au niveau de la sanctification, il agit au niveau du baptême dans le Saint-Esprit, il agit au niveau des dons spirituels, il agit au niveau du fruit de l'Esprit, tout ça c'est le Nouveau Testament. Mais ce matin, particulièrement, on va donc se limiter au Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et lire un premier texte, donc voir un premier point, pour montrer ce que fait l'Esprit dans l'Ancien Testament. Premièrement, il qualifie. Alors, on va voir un premier verset maintenant. C'est dans Exode, chapitre 31, versets 1 à 5. Voilà. Alors, j'ai mis au fur et à mesure les versets pour vous aider, si vous voulez les noter les références, car vous n'aurez peut-être pas le temps de tout consulter, mais au moins d'en saisir les références. Il qualifie « être rempli de l'Esprit de Dieu ». Parce qu'on voit cette expression abondamment dans l'Ancien Testament de quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Là, c'est l'exemple de Betsaléel. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages, et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Certains croyants de l'Ancien Testament donc connaissaient déjà la plénitude du Saint-Esprit. Dieu dit à Moïse, « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Mais on se rendra compte que dans l'Ancienne Alliance, c'est quelque chose de ponctuel, dans un but bien particulier. Ici, Betsaléel est rempli de l'Esprit de Dieu pour quelque chose. C'est pour fabriquer les ustensiles qui serviront dans le tabernacle. Il y avait un certain nombre d'ustensiles qu'il fallait fabriquer d'une manière bien précise. Et il reçoit les indications. Et il devait aussi fabriquer tous les vêtements des sacrificateurs et de ceux qui servaient dans le temple. Ça, c'était son ouvrage à faire. Et comme c'est un travail important qui devait être soigné, eh bien, il a été rempli de l'Esprit de Dieu pour le faire. Cela nous montre que dans le service, quand on veut servir le Seigneur, ou quand on fait une activité pour le Seigneur, on ne doit pas faire les choses n'importe comment, mais les faire le mieux possible pour le Seigneur. On ne doit pas bâcler, on ne doit pas faire les choses à moitié, mais on fait un service entier pour le Seigneur. Parce que Dieu n'approuve pas quand nous faisons les choses en dilettante ou à la légère. Quelquefois, On vient me dire, oui, mais j'avais pas vu sur la liste, je m'étais pas préparé, j'ai pas eu le temps, ou j'arrive en retard, etc. Ce n'est pas très sérieux, et ça ne démontre pas qu'on aime vraiment le Seigneur et qu'on veut le servir comme c'est indiqué dans la parole, c'est-à-dire, quand on sert le Seigneur, c'est à fond. Vaut mieux même ne rien faire plutôt que de faire quelque chose à moitié pour le Seigneur, car en faisant les choses à moitié, on donne un mauvais témoignage de notre propre amour pour Dieu. Donc quelqu'un qui est responsable, qui aime Dieu, qui veut le servir, sera conséquent. Et si jamais il a un empêchement, ce qui peut arriver, ben il aura la responsabilité, s'il est chrétien mature, de prévenir, de dire ben, « je ne pourrai pas le faire, je serai en retard, etc. » Au moins de prévenir la personne pour que bien on soit au courant. Ça, c'est normal. Donc être rempli de l'Esprit de Dieu, ça signifie faire les choses d'une manière tout à fait le mieux possible pour Dieu, et l'Esprit va nous aider justement à les faire. Deuxième verset qu'on va lire, c'est dans Juges chapitre 3 et verset 10, une autre expression qu'on trouve dans l'Ancien Testament qui dit « avoir l'Esprit sur soi ». Alors j'ai choisi qu'un verset à chaque fois parce qu'il y a beaucoup d'exemples, mais dans Juges, c'est Othniel. « L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. » Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishathaïm. À cette époque, donc, le peuple d'Israël était en conflit avec le roi de Mésopotamie. Il avait bien... Depuis l'époque de Josué, ils étaient bien rentrés dans le pays, mais on se rend compte qu'il y avait encore des attaques et qu'il y avait encore des difficultés. Donc, le peuple d'Israël est bien en Canaan, mais il est attaqué, il est oppressé, il est malheureux. Et au bout de 8 ans de ce combat, au bout de 8 ans d'oppression, le peuple d'Israël s'est tourné vers Dieu, a prié le Seigneur pour être délivré. Et Dieu a eu compassion du peuple. La Bible dit qu'il a suscité un libérateur. Vous trouverez cette expression dans le livre des juges. Dieu a suscité un libérateur. Ben, c'est une autre expression pour dire un juge. Et donc Othniel fut le premier d'une série de 12 juges qui vont se succéder et qui vont ainsi conduire le peuple pendant ces temps difficiles. Alors, une remarque qu'on peut faire, c'est qu'il est dit dans ce texte que l'Esprit de Dieu fut sur Othniel avant qu'il ne devienne juge. Et c'est toujours important de voir comment la parole de Dieu met les choses. Ce qui signifie pour nous qu'avant d'exercer un ministère pour Dieu, il est important d'avoir l'approbation du Saint-Esprit, d'être qualifié par le Saint-Esprit pour le service avant de commencer. Ça ne veut pas dire que tout est terminé, parce que après on est encore formé par l'Esprit. Mais déjà avant de devenir juge, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Othniel, deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est qu'il n'a pas choisi de devenir juge, c'est-à-dire il n'a pas postulé, il n'a pas demandé, mais c'est Dieu qui a choisi cet homme parmi le peuple pour dire « ce sera celui-là qui sera juge en Israël ». C'est important de considérer le choix de Dieu dans un ministère ou dans un engagement pour Dieu. Bon, là, c'est juge, ça pourrait être un ministère du Nouveau Testament, mais c'est le même principe. Alors, si on s'intéresse à Othniel, on sait très peu de choses pour lui. On peut se poser la question, mais Othniel, qu'est-ce qu'il avait comme qualité particulière? Est-ce qu'il se sentait à la hauteur de cette tâche? Je ne pense pas. Mais je pense qu'il avait un cœur bien disposé pour le Seigneur, que Dieu a vu son attitude sincère et que c'est le Saint-Esprit qui a établi cet homme, qui était un homme parmi les autres, mais qui avait un cœur pour Dieu. Il l'a établi dans un ministère. C'était juge, un libérateur. Et Othniel a été aussi qualifié pour le combat. Alors nous, on parlera du combat spirituel, mais lui, il devint juge en Israël et il partit pour la guerre, parce qu'il y avait des ennemis qui étaient là dans le pays. Et donc, il a été qualifié pour remporter des victoires au nom de l'Éternel. Et nous, en tant que chrétiens, le Saint-Esprit va nous qualifier aussi dans le combat spirituel et nous permettre de triompher de toutes les puissances de ténèbres. Quand Othniel avait l'esprit sur lui, il a pu remporter de grandes victoires pour la gloire de Dieu. Mais il n'est pas allé au combat avec ses forces humaines, mais avec accompagné par l'Esprit de Dieu. Ainsi, l'Esprit aussi est en nous. Je pense à ce texte bien connu de l'Épître aux Romains, où il est dit que l'Esprit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Et on voit qu'il y a l'action de l'Esprit en nous dans la prière, donc dans le combat spirituel, pour nous aider à prier d'une manière plus efficace. Donc ça, c'était la deuxième chose, avoir l'Esprit sur soi. Troisième expression dans l'Ancien Testament, être saisi par l'Esprit de Dieu. On retrouve cette expression dans plusieurs personnes. J'ai pris l'exemple de David, 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Le terme saisir signifie littéralement se précipiter. Donc l'Esprit a fondu sur lui ou s'est précipité sur lui. D'où les différentes traductions que vous avez. J'en ai consulté quelques-unes. Il est dit l'Esprit fondit sur David, il s'empara de David ou il tomba sur David. Il n'y a aucun doute que David vivait une relation très forte avec le Saint-Esprit et à plusieurs reprises il a été utilisé par l'Esprit. Mais ce terme évoque néanmoins une utilisation ponctuelle. Quand il est dit « l'Esprit saisit David », bien ça signifie qu'il est venu en lui dans un but bien précis, mais ponctuellement. Et dans l'Ancien Testament, les croyants ne vivaient pas tous ce genre d'expérience. En fait, ils ne sont pas si nombreux que cela, les exemples où on a des gens qui sont saisis par l'Esprit, où il y a l'Esprit qui se manifeste en eux, etc. Il y en a, mais pas tous. Pas tous, en tout cas, sont mentionnés. Et, en tout cas, certains expriment la crainte que le Saint-Esprit ne leur soit retiré. Vous avez David qui s'exprime au psaume 51 et qui dit à Dieu, « Ne me retire pas ton Esprit Saint. » Donc, à la fois, ils étaient saisis par moments par l'Esprit de Dieu et ils savaient que le Saint-Esprit était là pour un temps, mais que Dieu pouvait le reprendre. Saül, par exemple, a connu un temps où il a été saisi par l'Esprit de Dieu, puisque la Bible nous dit qu'il s'est mis à prophétiser. Vous connaissez son histoire au début de son règne, au point que les gens croyaient que c'était un prophète. Mais c'était ponctuel, il a prophétisé peut-être une ou deux fois, et puis c'est tout. Mais la Bible dit aussi que le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Et lorsque le Saint-Esprit s'est retiré de Saül, ben cet homme a perdu l'onction. Et c'est un mauvais esprit qui est venu le tourmenter. Et il en était malade, au point qu'il cherchait des choses pour l'apaiser. C'est comme ça qu'il a connu David, qui en jouant de la musique, ça apaisait le roi Saül. Mais on se rend compte, en tout cas, qu'à un moment donné, l'Esprit Saint a été retiré de la vie de Saül. Et on voit la déchéance de cet homme progressivement, puisqu'il n'avait plus l'esprit. On a le même exemple avec Samson. Samson, qui était un homme fort et redoutable, lorsqu'il vivait sous l'onction de l'Esprit de Dieu, qui accomplissait des exploits au nom de l'Éternel, mais lorsqu'on lui a coupé les cheveux et qu'il est dit que l'Éternel s'est retiré de lui, à ce moment-là, il est devenu un homme tout à fait ordinaire, sans aucune force particulière, et qui n'a rien pu faire devant les ennemis qui venaient l'arrêter. Donc voilà, ça c'est l'ancienne alliance. Toujours l'esprit saisissait d'une manière ponctuelle. Quatrième expression qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, des personnes qui sont revêtues de l'esprit de Dieu. Alors on peut parler de Gédéon par exemple dans Juges chapitre 6 et au verset 34, où il est mentionné que Gédéon fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Et c'est intéressant de connaître l'histoire de Gédéon, car Gédéon c'était un homme craintif. C'était un homme qui se cachait. Il était en train de battre du froment dans un pressoir. C'est pas un lieu adapté, mais c'est parce qu'il avait la crainte. Et il voulait se cacher des Madianites. Et alors qu'il a une visite de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui dit « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Et il reçoit cette incroyable mission parce que l'ange lui dit « C'est toi qui délivreras Israël de la main des Madianites ». Mais les Madianites, c'était une armée extrêmement plus nombreuse que l'armée d'Israël. Ils étaient plus puissants, ils étaient plus nombreux. Et lui, quand il reçoit cette mission, il est terrorisé, il se dit « Comment c'est possible? Comment je vais faire ?» Et on se rend compte dans les choix de Dieu, il y a toujours quelque chose d'étonnant et on se dit « Mais pourquoi Dieu n'a pas choisi un homme plus courageux que Gédéon ?» Car Gédéon n'avait pas de courage, il n'avait pas de force, il n'avait rien et pourtant Dieu a décidé de faire de lui un chef en Israël, un homme de Dieu. Et c'est avec ceux qui n'ont rien que Dieu peut faire de grandes choses, parce qu'ils savent leur incapacité, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Et Gédéon va totalement faire confiance à Dieu, et c'est comme ça qu'il va faire une des choses extraordinaires. La Bible dit que Gédéon fut revêtu, ou littéralement, c'est écrit comme ça dans l'hébreu, le Saint-Esprit revêtit Gédéon. C'est le Saint-Esprit qui a revêtu Gédéon, et ce verbe signifie « habiller », revêtir, envelopper. Le Saint-Esprit l'a revêtu de courage, le Saint-Esprit l'a rendu fort et l'a rendu victorieux par rapport à toute l'armée ennemie. Ce n'était pas gagné d'avance quand on connaît le tempérament de Gédéon. Et cet homme a été complètement transformé. Lui qui était timide, qui avait peur, on le voit obéir à Dieu qui lui demande quelque chose de tout à fait, on va dire, humainement insensé. Mais il a une telle confiance en Dieu. Lorsqu'il arrive à rassembler 32 000 hommes, ce qui n'était pas rien, c'était déjà une bonne armée. C'était insuffisant par rapport à l'ennemi, mais c'était déjà pas mal. Dieu lui dit, c'est trop. Il faut que tu renvoies chez eux tous ceux qui ne veulent pas venir. Et de 32 000, ils sont passés à 10 000 seulement. Et des 10 000, Dieu a encore fait une réduction pour passer à 300. Et si vous regardez de l'origine de 32 000 hommes qu'il avait à sa suite, Dieu a dit, c'est avec ces 300-là que tu vas remporter la victoire. Ça fait une réduction de 99% des effectifs. C'était quelque chose de fou, humainement parlant. Et pourtant, Dieu a dit, avec ces 300 seulement, tu vas voir, tu auras la victoire. C'est bien pour montrer à Gédéon que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Amen. Et il a fait cette expérience extraordinaire. Qui aurait osé obéir à un commandement pareil? Ben Gédéon l'a fait, il était revêtu de l'Esprit, il entendait la voix de Dieu et il obéissait à sa voix. Cinquième expression dans l'Ancien Testament, être agité par l'Esprit de Dieu. Dans Juges chapitre 13 et au verset 24, il s'agit de Samson. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan entre Tsoréa et Eshtarol. La mère de Samson, quand nous connaissons cette histoire, on sait qu'elle était stérile et donc elle souffrait de cette situation de ne pas avoir d'enfant. Et un jour, elle a reçu la visite d'un ange qui lui a promis « Tu auras un fils ». Et lorsque Samson donc est né, eh bien cette mère a consacré cet enfant à Dieu. Et en application de la loi du Naziréat, bien qu'elle avait reçu des directives de l'ange en ce sens, Samson n'a pas eu de vin, n'a pas pu boire de vin ou de liqueur forte, et le rasoir n'est jamais passé sur sa tête, donc il laissait pousser ses cheveux. Et le terme hébreu qui signifie que l'Éternel l'agita, ou commença à l'agiter, signifie « il le poussa » ou « enfonce ». Il enfonça, il força, ou s'est battre d'une façon continue. Et vous avez d'autres traductions qui disent « l'esprit commença à le pousser à l'action ». Je crois que c'est ça le sens, c'est la semeur qui traduit comme ça, et c'est le sens de l'agiter. En réalité, l'esprit le poussa à l'action, d'autres traductions travaillent à le travailler, à l'animer. Ça veut dire que Samson a été éveillé au plan spirituel très tôt dans son enfance. Il n'était qu'enfant, mais déjà l'Esprit de Dieu l'a poussé à agir pour Dieu. En fait, Samson, quand on regarde son histoire, elle nous parle à nous, parce que Samson est né dans un milieu croyant, ses deux parents étaient pieux, ils étaient sincères, ils aimaient le Seigneur. Samson a reçu une éducation dans les voies de Dieu, on pourrait dire qu'il a été à l'école du dimanche, dans un langage actuel. Donc il a même vécu quelques expériences avec le Seigneur. Mais notamment, cela ne l'a pas empêché d'avoir une chute lamentable à la fin de sa vie, car tout ce qui est favorable, le foyer, l'école du dimanche, les voies qu'on communique à nos enfants, bien il va falloir aussi que la personne elle-même, c'est-à-dire Samson, prenne des positions. Et il n'a pas pris certaines positions dans sa vie qui sont dans le domaine sentimental. Samson avait un problème au niveau des femmes. Il est tombé amoureux de plusieurs femmes. Il n'arrivait pas à se stabiliser et donc son cœur n'était pas équilibré, sa vie sentimentale était détériorée et jamais il n'a eu d'équilibre dans ce domaine, jamais il n'a réglé ce problème. Et quand on lit son histoire, c'est à la fin de sa vie, c'est une femme qu'il a aimée, la dernière, Delila. Il en était tombé éperdument amoureux, mais c'était une femme du pays des Philistins qui était ennemie du peuple d'Israël, et cette femme a causé la perte de cet homme qui a fini dans une prison à tourner la meule. Donc on voit bien que quand on ne veut pas régler un problème, ben on peut tenir comme ça un certain nombre d'années, mais tôt ou tard, si on ne veut pas régler, si on ne veut pas changer, si on a un problème quelque part, là c'est, on va dire, d'ordre sentimental qu'on n'a pas réglé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas droit dans les choses de son cœur, dans les choses sentimentales, eh bien, ça va se retourner contre lui, ça va faire une grave situation. Je mentionnerai quelques autres expressions qui existent dans l'Ancien Testament. Par exemple, vous avez dans Ézéchiel que l'Esprit va tomber sur lui, ou que l'Esprit va reposer aussi sur les anciens de Moïse, ou qu'il va résider en Josué. Il y a plusieurs autres expressions, on n'a pas le temps de tout voir. Mais j'aimerais voir une deuxième action de l'Esprit, après avoir vu qu'il qualifie, on a vu toutes ces expressions, qui montrent que soit le Saint-Esprit remplit, soit il est sur quelqu'un, soit il saisit quelqu'un, mais c'est toujours pour le qualifier en vue de faire quelque chose. Deuxième partie dans l'Ancien Testament qu'on peut voir, c'est que l'Esprit communique. Alors, premier verset qu'on va lire, c'est « Il parle » dans 2 Samuel chapitre 23 et verset 2. C'est David qui l'écrit. « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Et vous avez Zacharie 7, 12. « Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit » par les premiers prophètes. Alors un des grands rôles de l'Esprit dans l'Ancien Testament, c'est donc de communiquer. On a vu tout à l'heure, il qualifie, oui, mais aussi, on le voit souvent, communiquer, la plupart du temps, par les prophètes. Par les prophètes. Les prophètes parlaient de la part de Dieu pour trois raisons principales. La première, pour annoncer les vérités qui concernent Dieu. La deuxième, pour reprendre le peuple quand il s'était égaré des mauvaises voies. Et souvent, le prophète avait un rôle d'avertisseur en disant au peuple, attention, là vous n'êtes pas fidèle, là ceci, là cela. Et troisièmement, les prophètes annonçaient l'avenir, c'est-à-dire que les prophètes ont eu la révélation de la venue du Messie, par exemple. Et ils ont annoncé les choses à l'avance. Et à chaque fois, ils ont retransmis tout ce que l'Esprit leur enseignait, tout ce que l'Esprit leur annonçait. Alors, entendre la voix de l'Esprit-Saint, c'était déjà quelque chose de possible dans l'Ancienne Alliance, et cette faculté va se développer encore dans le Nouveau Testament, avec les dons spirituels, et ça, on en parlera dans les prochaines rencontres. Ce qui est important de saisir, à ce niveau, c'est que le Saint-Esprit a un message à communiquer, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit peut parler pour se faire comprendre. Et le Saint-Esprit cherche des hommes et des femmes qui vont être des bons canaux, des retransmetteurs de la voix de l'Esprit pour les autres. Car le Saint-Esprit ne s'exprime pas par une voix audible, comme on pourrait entendre une voix parler du ciel, comme cela. Mais il s'exprime au travers d'autres personnes, des prophètes dans l'Ancien Testament et par les dons spirituels dans le Nouveau Testament. Deuxième élément concernant l'Esprit qui communique, c'est il avertit. Dans Néhémie chapitre 9 et verset 30, il est écrit « Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. » Avertir, c'est donc signaler un danger, signaler un piège, signaler peut-être que le peuple avait dévié. Il les a avertis. Cependant, si le Saint-Esprit nous avertit, et encore aujourd'hui il le fait, il nous laisse responsables de nos choix. C'est-à-dire que le peuple, bien que le Saint-Esprit a parlé, le peuple a refusé, dit la Bible. C'est ce qu'on a lu. Ils ne prêtèrent point l'oreille. L'Esprit a parlé, mais le peuple n'a pas écouté. Pourquoi il n'a pas écouté? Parce que son cœur était devenu orgueilleux, parce qu'il a perdu le premier amour pour Dieu, parce que le Seigneur n'a plus la première place dans sa vie, et puis il a trouvé d'autres occupations. Le peuple donc s'est laissé contaminer par le monde environnant, par la mentalité du monde, par l'orgueil, et il pensait qu'il pouvait s'en sortir sans Dieu. Alors Dieu a toujours le même message. Dieu nous aime, et il nous dit « je veux le meilleur pour vous », et il veut nous conduire dans le meilleur pour nous. Mais nous, nous ne savons pas ce qui est le meilleur pour nous. Nous devons écouter la parole de Dieu pour aller là où il veut que nous allions parce que c'est le meilleur pour nous. Je prends l'exemple de Marthe et Marie. Vous connaissez ce passage où il y a Marthe. Marthe qui est active pour préparer le repas pour les disciples alors que Jésus est arrivé à l'improviste. Et puis Marie qui est au pied du Seigneur. Et Jésus qui termine en disant « Marie a choisi la meilleure part ». Eh bien, Jésus ne pouvait pas forcer ni Marthe ni Marie à choisir. Et de même, le Saint-Esprit ne va pas nous dire va pas nous forcer de choisir. Là, on voit que le peuple a choisi de ne pas écouter. Entre Marthe et Marie, il y en a une qui a fait un choix, le choix d'écouter. Et nous, ce matin, quel choix allons-nous faire? Car maintenant, c'est un choix individuel dont il est question. Eh bien, je peux choisir d'obéir à la voix du Saint-Esprit, je peux choisir d'écouter, de faire sa volonté, mais je peux choisir aussi de faire autre chose. Et donc cela nous enseigne que, bien sûr, le Saint-Esprit va nous avertir, mais c'est à nous de prendre notre responsabilité, et si nous désobéissons, eh bien, les conséquences sont mentionnées dans la parole, le peuple a été captif, et les ennemis ont conquis, ont fait des déportations, etc. Il y a toujours des conséquences à la désobéissance à l'esprit. Et la troisième grande partie qu'on va voir, c'est que l'esprit conduit. Non seulement il qualifie, bien sûr il communique, mais aussi il nous conduit dans la voie que nous devons prendre. Alors premièrement, il peut nous pousser. Ézéchiel chapitre 1 verset 12. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit poussait, les poussaient à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Ici, c'est Ézéchiel qui a une vision de la gloire céleste, et il voit les quatre êtres vivants qui sont là devant le trône, entièrement conduits par l'Esprit. Ils allaient là où l'Esprit les poussait à aller. En réalité, l'Esprit aussi désire nous pousser, sauf que nous, on n'est pas aussi soumis que les êtres célestes, car nous avons des résistances à l'Esprit. Mais l'Esprit désire aussi nous pousser dans la bonne direction. L'Esprit, c'est un souffle. Littéralement, l'Esprit Roi, c'est le souffle de Dieu. Et un petit peu comme le vent va souffler dans les voiles d'un bateau pour le propulser, pour le faire avancer, bien l'Esprit souffle pour nous montrer la direction. Et un des moyens de connaître si on est dans la volonté de Dieu, bien c'est la paix du cœur. Si on n'a plus la paix, si on est vraiment tourmenté dans une situation spirituellement dans notre cœur, on n'a plus la paix avec Dieu, c'est certainement qu'on a pris une mauvaise orientation. Par contre, si on a la paix de Dieu dans notre cœur, si on est calme et serein, et qu'on se sent vraiment là où Dieu nous veut, alors c'est un signe aussi favorable qu'on est dans la volonté de Dieu. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il peut transporter. 1 Roi 18, verset 12. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Achab, qui ne te trouvera pas, et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Ça, c'est Élie qui rencontre Abdias. Abdias, c'est un chef de la maison d'Achab, qui est chargé de trouver Élie, parce qu'Élie pose problème au roi, et le roi Achab veut le faire périr. Et quand Abdias a trouvé Élie, il faut savoir qu'Abdias craignait l'Éternel, c'était un croyant donc sincère, contrairement à Achab, son maître. Ben, il savait que s'il allait dire à son maître Achab qu'il avait trouvé Élie, entre-temps, l'Éternel pouvait très bien transporter Élie autre part, et lui se serait retrouvé dans une situation embarrassante. C'est ce qu'il explique dans ce verset. Il savait que Dieu pouvait transporter Élie quand il voulait, où il voulait, comme il voulait. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Je vous cite un témoignage que j'ai lu dans le livre « Citoyen du ciel ». C'est un pasteur qui s'appelle Yun, un pasteur chinois, qui a écrit ce témoignage et qui nous montre vraiment la puissance de Dieu. Ça s'est passé le 5 mai 1997. Cet homme avait été arrêté et mis en prison à cause de sa foi. Et les autorités lui avaient interdit d'annoncer l'évangile et de faire des réunions de prière, des choses spirituelles. Et donc, ils ont commencé par le torturer et ils lui ont brisé les deux jambes. C'est-à-dire que les os étaient brisés, il ne pouvait plus marcher. Ils l'ont remis dans sa cellule après l'avoir torturé. Ils l'avaient torturé pour lui faire avouer des noms d'autres chrétiens. Et lui n'avait rien dit, mais il avait été... avec les jambes brisées, remis dans sa cellule. Et le Seigneur lui dit, maintenant tu sors de la prison. Tu sors de la prison. Il entend cette voix-là. C'était impossible. Et il dit au Seigneur, c'est pas possible, j'ai les jambes brisées, je ne peux pas me lever. Et toujours cette voix qui insistait. Alors on ne sait pas, c'est pas dit si c'est une voix audible, je pense que c'est une voix dans son cœur qui lui disait, tu sors de la prison. Et c'est souvent dans une voix du cœur que l'Esprit parle. Et à ce moment-là, il a fait un pas de foi extraordinaire, c'est que sachant qu'il ne pouvait pas marcher, qu'il avait extrêmement mal aux jambes, il s'est assis dans son lit et il a posé ses deux pieds par terre et il s'est mis debout. Et au moment où il s'est mis debout, les deux jambes se sont restaurées et il pouvait marcher normalement. Lui, il était le premier surpris, mais l'autre problème, c'est que la porte était fermée. Et au moment où il s'approche de la porte, un miracle se fait, la porte s'ouvre d'elle-même toute seule. Il sort de la prison, mais ce n'était pas terminé parce que là, il y avait des gardes. Les gardes ne tiennent pas compte de lui, comme s'ils ne le voyaient pas. Et il arrive à sortir de ce lieu, traverser la cour où il y avait, il le mentionne, il y avait 30 gardes qui étaient là. Il y avait un autre témoin qui a vu la scène et qui a écrit aussi sur ce sujet. Donc il a vu le chinois Jung traverser la cour de la prison. Il y avait 30 gardes postés tout autour. Il n'y en a pas un qui a bougé pour l'arrêter ou quoi que ce soit. Et cet homme s'est retrouvé dans la rue, dehors, où il a demandé à un taxi de l'emmener chez des chrétiens. Et le taxi n'a fait aucune remarque sur ses vêtements de prisonnier, parce que lui, il était quand même en habit de prisonnier. Et on ne peut pas se promener comme ça en ville. Et le chauffeur de taxi ne disait rien là-dessus. Il l'a emmené là où il voulait. Et à ce moment-là, le chrétien, le pasteur Yoon, a dit... Je vais chercher de l'argent, il n'avait pas d'argent sur lui forcément. Je vais chercher l'argent chez mes amis, je viens vous payer. Donc le taxi attendait. Et quand il est revenu pour payer le gars du taxi, le chauffeur du taxi ne se souvenait plus qui était cet homme. Il ne savait plus qui c'était. Ceci pour effacer de sa mémoire tout cet incident. Et pour pas qu'il dénonce aussi la rue des autres chrétiens où ils habitaient, etc. Vous voyez tout ce que Dieu peut faire, c'est extraordinaire. Ce témoignage, on l'a reçu parce que cet homme, dont je vous cite le nom, je ne suis pas sûr que ce soit son vrai nom d'ailleurs, je pense que c'est un nom d'emprunt qu'ils ont mis dans le livre, qui était recherché par les polices de Chine. Il est aujourd'hui en Allemagne, car il a réussi à sortir du pays d'une manière miraculeuse. À l'aéroport où il devait prendre son avion, sa photo était diffusée. Il devait être arrêté. Et au moment où il a présenté son passeport, le gardien qui l'a fait monter dans l'avion n'a pas reconnu le visage par rapport à la photo qu'il avait. Ses yeux ont été brouillés, je ne sais pas ce qui s'est passé, et il l'a laissé partir. Et c'est comme ça que cet homme est libre aujourd'hui en France, mais il n'a pas le droit de retourner. Bien sûr, s'il retourne en Chine, il est arrêté immédiatement. Mais le Seigneur fait des choses extraordinaires dans des cas de circonstances comme celle-ci. Béni soit le Seigneur. Voilà, ça c'est des beaux exemples. On voit que cet homme donc a pu sortir librement de la prison sans être encombré. Et puis enfin, dernier élément, le Saint-Esprit peut enlever. Ézéchiel chapitre 3 verset 12. L'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Alors Ézéchiel a témoigné à plusieurs reprises dans son livre qu'il a été enlevé par l'Esprit, enlevé dans des visions spirituelles très élevées. Il s'est retrouvé à voir la gloire de Dieu, on l'a dit tout à l'heure, il s'est retrouvé à voir des choses célestes, difficiles à traduire avec des mots. Ce sont des expériences spirituelles très fortes qu'ont vécu certains hommes de la parole, notamment Ézéchiel. Plus proche de nous dans le Nouveau Testament, vous avez Paul qui a dit qu'il a été enlevé au troisième ciel. Et il a vu des choses et il a entendu des choses dans le paradis si merveilleuses qu'il n'est pas possible de les restituer. Donc ce sont des hommes qui ont vécu des enlèvements. L'Esprit les a enlevés. Et ces personnes ont payé un prix élevé, ces expériences spirituelles. Quand on regarde l'apôtre Paul qui disait qu'il avait une écharde dans la chair pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations qu'il avait eues de la part de Dieu, eh bien, autant ils connaissent, plus on connaît une vie de l'esprit abondante, plus il va nous falloir être gardé de l'orgueil et de la chute. Et il fallait que Paul ait donc une écharde pour le tenir dans l'humilité. Donc on se rend compte tout ce que peut faire l'Esprit déjà dans l'Ancien Testament. J'ai cité les exemples principaux. Et en conclusion maintenant, on voit que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit opère de manière ponctuelle. Il opère de manière ponctuelle, on va dire, dans la vie non pas de tous, mais de certains croyants qu'il va qualifier, qu'il va revêtir de l'esprit pour des buts bien particuliers. Simplement pour retenir tout ce qu'on a dit, les trois éléments clés, c'est que l'esprit qualifie, l'esprit communique et l'esprit conduit. C'est trois aspects-là qui sont vraiment développés dans l'Ancien Testament. Et on va voir la prochaine fois ou les prochaines fois comment l'esprit agit dans le Nouveau Testament et on va voir l'évolution. Car ça ne sera pas juste ces trois domaines, mais ça sera beaucoup plus vaste maintenant, depuis que Jésus est venu et qu'il a dit « Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Donc il y a une nouvelle action de l'Esprit de Dieu qui est plus importante, on va dire, dans la Nouvelle Alliance que dans l'Ancienne. On va prier le Seigneur, que le Seigneur nous accorde encore sa grâce. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui nous montre que ton esprit agissait déjà dans l'Ancienne Alliance de manière extraordinaire. Et nous te bénissons pour l'Esprit de Dieu qui est là dans l'Église aujourd'hui, qui continue cette œuvre merveilleuse. Jésus, nous te prions de nous apprendre à toujours écouter ta voix, à être sensible à cet esprit de vérité qui veut toujours nous conduire là où c'est le meilleur pour nous. Bénis chacun dans sa situation, Seigneur, tu sais, ceux qui s'attendent à des directives de ta part ou ceux qui se sont peut-être égarés sur une mauvaise voie, afin que ton esprit les avertisse, les reprenne et qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Nous voulons réaliser que nous sommes responsables de nos choix, que ce n'est pas toi qui vas choisir à notre place, Seigneur, mais que nous devons nous être attentifs et écouter ce que tu veux nous dire afin de choisir de la meilleure manière. Bénis mes frères et mes sœurs. Et encourage chacun à continuer la marche en comptant sur ta grâce. Dans le bon nom de Jésus, nous te louons. Amen.